de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Les patrons de Facebook et Twitter témoigneront après l'élection présidentielle américaine. La Corée du Sud continue son programme de vaccination contre la grippe malgré 48 décès. Les pays européens compacts impriment le record des cas le plus élevé corona en une journée. Le vice-président vise l'Indonésie pour devenir le plus grand producteur halal au monde en 2024. Ministère de PUPR a dit que 58,2 milliards de roupies pour la construction de logements touristiques à Borobudur. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le comité judiciaire du Sénat américain a déclaré que le PDG de Facebook et Twitter témoigneront le 17 novembre contre leur décision de bloquer les nouvelles concernant les fils du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Mark Zuckerberg et Jack Dorsey témoigneront sur des accusations des partis pris anticonservateurs selon le comité judiciaire. Les sociétés de médias sociaux ont été vivement critiquées par les conservateurs pour leur décision de marquer deux articles de New York Post comme diffusant de la désinformation. Le PDG de Facebook, Twitter et Alphabet témoigneront également devant le Comité américain du commerce le 28 octobre au sujet d'une loi protégeant les sociétés Internet. L'Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré samedi qu'un total de 48 personnes étaient décédées après avoir reçu le vaccin contre la grippe, mais qu'on continuerait le programme de vaccination du gouvernement. Se référant à une étude, KDCA a déclaré qu'on n'avait pas trouvé de lien direct entre l'injection du vaccin contre la grippe et les 26 décès précédents qui avaient fait l'objet d'une enquête. On continue donc le programme de prévention de l'épidémie de grippe qui coïncidait avec la pandémie de COVID-19 en hiver. Le directeur du KDCA, Jong Eun Kyung, a déclaré qu'après avoir examiné le cas de décès jusqu'à présent, ce n'est pas le moment de suspendre le programme de vaccination contre la grippe car les vaccinations sont devenues si cruciales cette année. Les résultats préliminaires de l'autopsie des 20 victimes décédées fournies par la police et le Service national de médecine légale ont montré que 13 d'entre elles sont décédées de maladies cardiaques, de maladies vasculaires cérébrales et d'autres maladies non consécutives à la vaccination. Le nombre de victimes aujourd'hui est de 48 personnes après avoir augmenté de 12 personnes par rapport à la veille. Un certain nombre de pays européens ont signalé des niveaux records pour des cas quotidiens supplémentaires de virus corona cette semaine. La France, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine ont signalé des pics drastiques de cas de coronavirus dans leurs régions respectives. Tel que rapporté par CNN samedi, les autorités françaises, par exemple, établirent un record en signalant 42 032 cas de corona au cours des dernières 24 heures. Avec ce pic, le nombre total de cas corona en France a atteint 1 million de cas vendredi. Les statistiques du gouvernement français montrent un total de 1 041 075 cas confirmés de corona sur son territoire. Les autorités françaises ont signalé 298 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant un total de 34 508 décès de corona maintenant confirmés dans le pays. Le gouvernement français a imposé un couvre-feu et prévoit de mettre en place de nouvelles restrictions de manière ciblée. Le président Emmanuel Macron estime que les citoyens français devront coexister avec le coronavirus au moins jusqu'à l'été 2021. Ensuite, les autorités polonaises ont signalé 13 632 cas de corona, un niveau record dans le pays, et 153 décès par jour. Le vice-président Ma'ruf Amin vise l'Indonésie à devenir le plus grand producteur halal au monde en 2024, compte tenu du grand potentiel des ressources humaines, en particulier les musulmans, qui atteignent 87% de la population totale de l'Indonésie. Ma'ruf Amin a déclaré cela lors d'une conférence de presse après le séminaire web « L'Indonésie au centre des producteurs halal mondiaux » au palais vice-présidentiel de Jakarta samedi. En tant que pays avec la plus grande population musulmane du monde, selon les vice-présidents, l'Indonésie est un marché très décisif dans le commerce mondial des produits halal. Cependant, jusqu'à présent, l'Indonésie n'a joué qu'un rôle limité en tant que fournisseur d'étiquettes halal pour les produits fabriqués par d'autres pays. Par conséquent, le vice-président a encouragé toutes les parties prenantes du monde industriel à tirer parti du potentiel du marché halal indonésien en augmentant les exportations des produits halal, en particulier l'industrie alimentaire et des boissons. Le ministère des Travaux publics et du Logement public, ou abrégé en PUPR, a alloué un budget de 58,2 milliards de roupias à la construction de logements touristiques dans la zone stratégique nationale du tourisme, ou KSPN, de Borobudur à Java Central. Le directeur général du logement du ministère de PUPR, Halawi Abdul Hamid, dans un communiqué de presse à Jakarta, a déclaré samedi que le nombre de résidences touristiques à construire à KSPN Borobudur est de 733 unités. Selon lui, le gouvernement continue d'encourager les efforts pour restaurer l'économie nationale pendant la pandémie de COVID-19, dont l'un est à travers le développement du secteur national du tourisme. Il a ajouté que le gouvernement continue de s'efforcer d'améliorer la qualité des maisons de personnes dans les zones touristiques existantes avant qu'elles soient mieux organisées et deviennent une attraction pour les touristes de passage. Halawi a expliqué le développement des abris touristiques à KSPN Borobudur en améliorant la qualité des maisons communautaires le long des couloirs du tourisme. On espère que les maisons des habitants des zones touristiques peuvent également être une famille d'accueil pour les touristes qui visitent et souhaitent profiter de la beauté du temple de Borobudur. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine dont le titre est « La visite du premier ministre japonais en Indonésie renforce la coopération entre les deux pays ». Le président Joko Widodo, accompagné de la première dame Iriana Joko Widodo, a officiellement salué la visite du premier ministre japonais Yoshihide Suga et de Madame Mariko Suga au palais présidentiel de Bogor à Jaffa de l'Ouest mardi le 20 octobre 2020. En accueillant les invités du pays, le président Joko Widodo a déclaré que cette visite était le symbole d'un engagement fort pour la coopération entre l'Indonésie et le Japon.
Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga.
La visite en Indonésie fait partie de la première série de visites du premier ministre Suga après sa nomination en septembre dernier. Cela montre l'importance de l'Indonésie et de la région de l'Asie du Sud-Est. Cela reflète aussi un engagement commun à continuer de renforcer le partenariat stratégique entre le Japon et l'Indonésie. Lors de la réunion bilatérale, le président Joko Widodo et le premier ministre Yoshihide Suga ont discuté d'un certain nombre de questions, notamment la coopération dans la gestion de la pandémie, l'établissement d'un accord de couloirs de voyage pour les entreprises essentielles, la coopération économique et le partenariat Indonésie-Japon pour renforcer la coopération multilatérale. Lors d'un communiqué de presse conjoint, le président Joko Widodo a déclaré que cette visite témoignait de l'engagement des deux pays à travailler ensemble.
Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih.
Au milieu d'un monde plein d'incertitudes, cette visite montre que nous choisissons de coopérer et de nous soutenir les uns et les autres. À la même occasion, le premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que le Japon accorderait des prêts à l'Indonésie pour aider à surmonter la pandémie de COVID-19. Le prêt est une aide fiscale de 50 milliards de yens, ou l'équivalent de près de 7 billions de rupiahs, pour augmenter la capacité de gestion des catastrophes de l'Indonésie. En plus de fournir une assistance sous forme de prêts en espèces, le Japon encourage également la coopération avec les institutions d'évaluation de la santé en Indonésie en fournissant des biens et équipements médicaux. Le premier ministre Yoshihide Suga a également exprimé le soutien du Japon à ASEAN Outlook on Indo-Pacifique qui ont été lancés par l'Indonésie à adopter. Selon lui, le Japon a des similitudes fondamentales avec la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Le Japon coopérera avec l'Indonésie avant le sommet connexe de l'ASEAN qui se tiendra en novembre. La visite du Premier ministre Yoshihide Suga au Vietnam et en Indonésie cette semaine est le premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction le 16 septembre 2020. La visite du Premier ministre Yoshihide Suga est également la première visite d'un chef de gouvernement en Indonésie pendant la pandémie de COVID-19. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 25 octobre. On commence par le 25 octobre 1945. Les forces alliées ont débarqué à Surabaya 6000 soldats de la 49e division dirigée par le brigadier général Obertin Walter Southern Malabi pour désarmer l'armée japonaise. Les troupes du général Malabi font partie des forces alliées des Indes orientales néerlandaises ou abrégées en AFNE. On a envoyé ces forces alliées en Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour désarmer les soldats japonais et libérer les prisonniers de guerre japonais. En outre, ils ont été chargés de ramener l'Indonésie aux Indes néerlandaises sous la domination néerlandaise et sous l'administration civile des Indes néerlandaises. Malabi a dirigé ses troupes à Surabaya le 25 octobre 1945. Cependant, ils se sont heurtés à la résistance des troupes indonésiennes car les forces alliées des Indes orientales néerlandaises leur a demandé de remettre les armes que les Indonésiens avaient d'abord saisies au Japon. Cette bataille a tué le général Malabi. La mort du général Malabi a déclenché la publication d'un ultimatum britannique et le déclenchement de la bataille du 10 novembre 1945, dont on se souvient comme le jour des zéros. La suite, le 25 octobre 1962, on a condamné Nelson Mandela à 5 ans de prison. Nelson Mandela était un combattant de l'indépendance par ses activités anti-apartheid et est devenu plus tard président de l'Afrique du Sud. Mandela s'est vigoureusement opposé à la loi d'apartheid, de sorte que les Noirs deviennent des citoyens de seconde zone. Il a rejoint le Congrès national africain et avec Walter Sisulu et Oliver Tambo a mené des manifestations pacifiques contre l'apartheid. En raison de ses activités anti-apartheid, il a purgé plusieurs peines. Le 5 août 1962, on a arrêté et puis emprisonné Mandela au fort de Johannesburg. Ensuite, le 25 octobre 1962, on l'a condamné à 5 ans de prison. Puis, le 12 juin 1964, lui et un groupe d'autres militants ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. En février 1980, on a libéré Nelson Mandela de prison. En 1993, avec le président F.W. de Klerk, on lui a décerné le prix Nobel de la paix. Le 25 octobre 2010, le tremblement de terre dans les îles Mentawai a tué 415 personnes. Le 25 octobre 2010, il y a eu un tremblement de terre de 7,7 sur l'échelle de Richter au large de Sumatra. Le United States Geological Survey a déclaré que le tremblement de terre s'est produit à 21h42 heure locale, à environ 240 km à l'ouest de Bengkulu, près des îles Mentawai. The United States Geological Survey a également signalé que l'épicentre du tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 206 km. Selon le centre d'alerte au transmis du Pacifique, le tremblement de terre a provoqué un tsunami de 3 à 10 mètres de hauteur. Au moins 77 villages ont été détruits. Environ 415 personnes ont été tuées et 296 autres ont été disparues. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Di saat
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie est intitulé « Koi est prêt à finaliser la candidature olympique 2032 ». Le président du Comité olympique indonésien, ou abrégé en KOI, Raja Sabta Oktohari, admet qu'il attend toujours un calendrier de réunion limitée avec le président pour finaliser la préparation de la candidature aux Jeux olympiques de 2032. Oktohari, dans un communiqué de presse tel que rapporté par Antara mercredi, a déclaré que KOI avait également commencé à compiler des sujets à discuter avec divers ministères avant de le présenter plus tard. S'il a déjà tenu une réunion limitée, Okto a déclaré qu'il se rendait immédiatement au siège du Comité international olympique à Lausanne, en Suisse, pour discuter davantage des chances de l'Indonésie d'accueillir les Jeux olympiques de 2032. Oktohari a admis qu'il était de plus en plus optimiste quant aux grandes chances que l'Indonésie remporte la candidature aux Jeux olympiques de 2032. De plus, le ministre des Entreprises publiques, Erick Thohir, en marge de son voyage diplomatique en Suisse la semaine dernière, s'est rendu au siège du CIO pour rencontrer le président Thomas Bach. Erick Thohir, qui est également membre du CIO lors de la réunion avec Thomas Bach, a évoqué la situation du sport au milieu de la pandémie et la nomination de l'Indonésie pour accueillir les Jeux olympiques de 2032. Raja Sabta Oktohari a déclaré que l'arrivée du ministre Erick Thohir avait reçu une réponse positive du CIO. Cela indique également que l'Indonésie envisage sérieusement d'accueillir les Jeux olympiques de 2032. Selon Oktohari, les chances pour l'Indonésie de remporter la candidature aux Jeux olympiques de 2032 sont également plus grandes en raison du soutien du gouvernement et de la communauté, qui est la condition principale de la candidature. De plus, l'Indonésie a déjà organisé les Jeux asiatiques de 2018, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de construire de nombreux nouveaux sites pour les Jeux olympiques de 4 ans. Conformément au message du CIO sur la rentabilité, l'Indonésie a au moins satisfait à ses exigences. Selon Oktohari, on a déjà utilisé la zone Gelora Bung Karno aux Jeux asiatiques de 1962 et aux Jeux asiatiques de 2018. Si on l'utilise à nouveau aux Jeux olympiques de 2032, c'est une forme d'héritage. Dans le but d'accueillir les Jeux olympiques de 2032, l'Indonésie sera en compétition avec plusieurs autres pays, à savoir l'unification de la Corée, de l'Australie, de l'Inde, de la Chine, de l'Allemagne et du Qatar. C'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Datang tak mengenal waktu, cinta tak hiraukan keadaan. Semestinya kau di sini, di sebelahku. saat ini. Tapi mengapa kau bersamanya meninggalkanku sendiri saja? Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi cintaku melebihi dia. Sampaikan salam kepada hatimu bahwa diriku merindukan kamu. Sampaikan pesan cinta terbesarku, walau diriku bukan kekasihmu. Tapi mengapa kau bersamanya meninggalkanku sendiri saja? Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi cintaku melebihi dia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, nous vous emmènerons en voyage à Bulukumba, dans la province de Sulawesi du Sud, pour voir la beauté des falaises d'Aparalang. Chers auditeurs, les falaises d'Aparalang est un objet de tourisme marin situé dans le village d'Ara, dans le district de Bonto Bahari, dans la région de Bulukumba, Sulawesi du Sud.
Cette attraction touristique est à environ 37,5 km de la capitale de la région de Bulukumba ou à environ 5 heures de route du centre-ville de Makassar, la capitale de la province de Sulawesi du Sud. Le charme des vallées de Paralang est capable de calmer l'esprit des visiteurs. Si vous visitez ces falaises qui s'étendent de la mer Bleue, vous vous sentirez chez vous. En outre, la propreté est également bien. Vous ne trouverez pas de déchets éparpillés. Pour les visiteurs qui souhaitent tester leur adrénaline, ils peuvent essayer le saut en falaise depuis un endroit prédéterminé. Plonger dans la mer en sautant d'une falaise. L'eau de mer ici est assez claire, les visiteurs peuvent donc également nager ou faire de la plongée. Mais il faut faire attention car le fond de cette eau a une rangée de roches acérées. Pour ceux qui aiment la photographie, c'est un paradis car il existe de nombreux endroits naturels intéressants comme objets. L'attraction touristique Les Falaises de Paralang est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec ce type de temps opérationnel, les visiteurs peuvent déterminer librement l'heure de leur visite. Pour entrer dans l'attraction touristique Les Falaises de Paralang, les visiteurs n'ont qu'à payer un ticket de 5 000 rupiahs, tandis que pour la voiture qu'ils chargent, 20 000 rupiahs. En plus d'avoir un grand parking, les installations sont également assez complètes. Il y a des salles de bain et des gazebos pour se détendre. Il y a aussi plusieurs boutiques de souvenirs ici. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel cette fois-ci.
Tanpa pesan merengku semakin dalam, berselimut debu waktu ku menanti. Cemas kau datang sederhana,
sederhana,
satu bintang di langit kelam, sinarmu rimba pesona, dan ku tahu telah tersesat. Ku kejar kau, takkan bertepi, menggapai. Redup kilamu tak mengarah.
rasa tanpa pesan.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur et cette édition parle d'informations sur Modest Fashion ISEF 2020. Pour commercialiser les produits des vêtements musulmans indonésiens à l'échelle internationale, la Banque d'Indonésie, la Chambre de la mode indonésienne et l'Indonésie Halal Lifestyle Center sont en synergie pour organiser un modeste défilé de mode sous la forme d'une série d'événements pour l'Indonésie Sharia Economic Festival. Cette fois, ISEF est la 7e année qui se tiendra virtuellement sur le thème mode durable, mode de vie durable. Ali Karisma, président national de la Chambre indonésienne de la mode, a déclaré qu'avec la plateforme virtuelle, ce modeste défilé de mode peut être organisé de manière plus dynamique et interactive. On diffusera cette activité en streaming en direct. Les dessinés ont la possibilité de présenter leur collection complète de créations. Modest Fashion ISEF 2020 se tiendra virtuellement du 28 au 31 octobre 2020, présentant 12 sessions de défilés de mode virtuel, 164 créateurs ou marques, 720 looks et 180 mannequins. On complétera ce défilé de mode virtuel par des jumelages d'entreprises réunissant créateurs et acheteurs. On renforce plus le concept de mode durable dans les produits de mode exposés à Modest Fashion ISEF 2020, à savoir l'utilisation de matières premières et de ressources humaines locales pour stimuler l'économie locale, mais se réfère à l'inspiration des tendances mondiales et au souci de l'environnement de la société. De plus, la collection de vêtements qui sera exposée devra appliquer la trend forecasting 2021 ou 2022 dont le thème est le nouveau départ, à savoir les changements de mode de vie pour affronter une nouvelle ère. Pour préparer des produits prêts à être compétitifs au niveau mondial, on effectue un processus de conservation par l'équipe de conservateurs de la mode modeste de l'ISEF 2020. Cette équipe se compose des créateurs de mode Tarunaka Kusmayadi, Deden Siswanto et Sophie pour sélectionner des dessinés ou marques adaptées au marché international. Deden Siswanto, de l'équipe de conservation, a déclaré que les critères de conservation inclut la catégorie de la mode musulmane en appliquant une inspiration locale avec des goûts mondiaux, des dessins et des produits de bonne qualité, en suivant les tendances mondiales de la mode, en ayant des acheteurs potentiels, de bonnes stratégies de vente et de commercial, et bien sûr l'utilisation des matières premières et les ressources humaines locales, ainsi que d'avoir un élément durable dans le processus de production. Voilà l'Indonésie en couleur.
Wajahmu selalu ada kala ku memejamkan mata. Indah paras lukumu hadirkan sejuta hayalan.
Tak pernah terbayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku.
Dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu.
Bayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku.
Oh, dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu.
Of Indonesia.
Sejenak saja dengar aku. Beriku waktu walau tak banyak, mungkin tak cukup berarti untukmu. Namun ku ingin agar engkau tahu, ku harap kau kan tersentuh dengan apa yang diungkap hatiku. Memang tak berarti banyak untukmu, namun ku ingin kau anggap aku ada. Hingga semua.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical et cette édition, je parle d'une chanson de Fidi Aldiano. Fidi Aldiano a invité Prilly Latuconsina, une actrice en Indonésie, à collaborer chanter la chanson intitulée « Tak Bisa Bersama ». La chanson fait partie de l'album Persona sorti par Fidi Aldiano en 2016. À cette époque, Fidi a écrit la chanson Tak Bisa Bersama basée sur l'histoire vraie d'un ami qui est assez liée aux histoires d'amour des jeunes d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle version, Fidi collabore avec Barsena Bestandi pour faire le réarrangement. Selon Prilly, cette chanson n'est pas seulement pour les personnes dont les relations amoureuses sont de confessions différentes, mais aussi pour les couples d'âge, de race et de relations à distance différentes ou même qui n'ont pas l'approbation de leurs parents. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Tak Bisa Bersama » ou en français « On ne peut pas être ensemble » chantée par Fidi Aldiano et Prilly Latuconsina. Bonne écoute.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah. Terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta meski kita tak sama. Tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama.
Tak bisa bersama.
Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta meski kita tak sama.
Tak bisa bersama.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.